temps de notre semaine consacrée aux politiques migratoires. Ce matin, vous pouvez ouvrir vos oreilles pour un beau documentaire de Raphaël Kraft et Véronique Samouilov, Un si bel été, l'exode des Juifs de Saint-Martin-Vésubie. Hier, nous vous avons parlé avec les historiennes Nancy Green et Anoush Kunt du projet migratoire des migrants et des stratégies mises en place dans l'urgence par les migrants eux-mêmes. Le documentaire de ce matin est une sorte d'application à l'histoire, à cette question. Il est signé Raphaël Kraft et Véronique Samouilov. Il nous raconte une histoire qui a servi de point de départ au roman de Le Clésio, Étoile errante, dont on entend d'ailleurs des extraits dans ce documentaire. Le refuge, puis la fuite devant l'avancée allemande de centaines de Juifs depuis le village de Saint-Martin-Vésubie dans l'arrière-pays niçois jusqu'en Italie. On y entend la peur, on y entend la fuite, le répit, la peur à nouveau, la haine, mais aussi l'entraide et le sauvetage. Jusqu'à 10h, dans la Fabrique de l'Histoire, ce documentaire de Raphaël Kraft et Véronique Samouilov, avec les témoignages et les analyses de Éric Gilly, Daniel Baudot-Laxime, François Mélone, Janie Lancel-Stopek et Jean-Louis Panicacci.
On est au bord du lac de Fenestre, là. Quand est-ce que vous avez découvert cette histoire ?
En 1966, nous avons voulu nous mettre au frais pour les vacances. Et nous avons acheté à Saint-Martin-Vésubie. Mais je n'avais aucune idée à cette époque de ce qui s'est passé. On a acheté un chalet, donc. Et là, un berger, Charlo Blanchi d'Angeletto, est arrivé nous offrir un panier de cèpes. Je lui ai offert un coup de rouge. Et il a commencé à me raconter quand je passais des Juifs.
La famille de mon grand-père a toujours vécu sur Saint-Martin. C'est quelque chose dont on ne parlait pas, tout simplement.
S'il y avait une phrase pour définir cet été 43 ?
Pour moi, ça a été mon adolescence, ma jeunesse merveilleuse. C'est mon souvenir. Je veux garder que ça. J'ai été heureuse là-bas. C'est quelques mois passés à Saint-Martin-Vésubie. De toute la guerre, j'ai été heureuse.
À l'origine, on a une découverte sur Saint-Martin, qui est une carte d'identité, restée dans les combles d'une chapelle que la municipalité restaure. Et sur cette carte, eh bien, il y a la mention juive. Donc, certaines personnes vont tirer le fil.
Après, j'ai commencé à interroger systématiquement, je peux dire, des tas de gens qui tous me parlaient de l'époque où ils étaient contrebandiers et ont passé des Juifs. Au début, je me disais, ils les ont tous passés pour qu'ils arrivent vers la Suisse. J'avais toutes ces idées dans la tête. Je ne connaissais rien à l'histoire.
Un si bel été. L'exode des Juifs de Saint-Martin-Vésubie en septembre 1943. Un documentaire de Raphaël Kraft et Véronique Samouilov.
Je m'appelle Janie. C'est pas mon vrai nom, d'ailleurs. C'est un prénom que mes parents m'ont donné quand ils sont arrivés en France. Moi, je suis venue à 3 mois. Et je m'appelle Estera, normalement. Estera Stopek, de mon nom de jeune fille.
Alors, votre père arrive en France en 1925. Vous vous naissez en 1926. En Pologne, vous arrivez en France à l'âge de 3 mois. Après la défaite française, votre père se fait enregistrer auprès de l'État français en sa qualité de ressortissant de religion juive par obéissance à la patrie d'accueil. Peu avant la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942, votre père décide d'aller en zone non occupée, d'où il échappe à une première rafle pour finalement emmener toute sa famille, dont vous, dans un train à destination de Nice.
Et quand on est arrivé à Nice, on l'a envoyé dans des bureaux qui s'appelaient, je ne sais plus comment, mais c'était Boulard du Bouchage à Nice.
Comité du Bouchage.
Qui, eux, nous envoyaient en résidence forcée, ce qu'ils appelaient, Saint-Martin-Vésubie. On avait l'impression d'être un peu tranquille. On voyageait. À partir du moment où on était à Nice, pour nous, c'était presque des vacances. Enfin, pour nous, enfants.
Avec la défaite de la France, beaucoup de Juifs français et étrangers
qui vivaient dans la région parisienne.
Jean-Louis Panicacci, historien.
Au contact de l'occupant allemand, on préférait souvent partir vers la zone qu'on appelait libre, et donc d'aller vers Lyon, Marseille, Toulouse dans le sud-ouest, et certains, ceux qui étaient les plus fortunés, vers la Côte d'Azur, Cannes et Nice essentiellement. Et puis, avec l'occupation de la zone non occupée, c'est-à-dire le 11 novembre 1942, hein, réaction et représailles au débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, les Allemands sont à Lyon, à Avignon, Marseille, et bien sûr Toulouse dans le sud-ouest. Et les Italiens occupent le sud-est et la Corse. Donc ils sont installés à Nice, à Toulon, à Digne, à Gap, à Grenoble, à Annecy, à Chambéry, etc. Et comme ils n'appliquent pas les mêmes lois avec la même rigueur que les occupants nazis, il y a encore un processus de vagues supplémentaires d'immigration vers la Côte d'Azur. Si bien que des 5000 de 1939, au printemps 1943, on arrive à 22 000 à peu près dans le département, et presque tous dans l'arrondissement de Nice.
Vous dites que c'était Nice, c'était déjà les vacances.
Par rapport à ce qu'on avait vécu en se cachant et les gendarmes venant nous chercher, repartir, encore repartir. Et là, c'était des vacances parce qu'on nous avait dans un endroit où c'était les Italiens qui nous contrôlaient. Et donc, il n'y avait pas les Allemands. C'était ça, les vacances, finalement. Et quand on s'est retrouvé à Saint-Martin, on nous a indiqué des maisons qui étaient à louer, des appartements. Et mon père est allé voir. Il a trouvé un appartement, de quoi nous loger, dans une très belle maison, d'ailleurs. Et chaque étage était occupé par des gens qui étaient déjà arrivés avant nous, d'autres qui arrivaient après. Je crois que c'était la Villa Sainte-Anne, si je me souviens bien. Et c'était assez extraordinaire. C'était la campagne, la montagne, les fleurs, enfin, tout était... Et puis on rencontrait des gens, comme nous, et beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunesse. Et on se retrouvait comme ça, dans la rue. Mais il fallait quand même, tous les jours, se rendre à la commandanture italienne pour faire voir nos permis, de façon à être sûr qu'il manquait personne, parce que c'est les contrôles obligatoires. Mais c'était tout, ça n'allait pas plus loin.
Comme les diplomates et militaires italiens qui sont moins fascisés que certains membres du gouvernement et qui sont moins sensibles que Mussolini à la volonté d'être loyaux vis-à-vis de l'Allemagne nazie, il faut pas oublier que le contexte, ce qu'on appelle la carte de guerre, influe aussi. Il y a eu les défaites militaires en Afrique du Nord, et là, la Main, c'est début novembre 1942. Bon, plus tard, l'énorme défaite sur le territoire soviétique. Donc, pour toutes ces raisons, un certain nombre de dirigeants qui sont moins sensibles que Mussolini à la volonté d'être loyaux vis-à-vis de l'Allemagne nazie, mais attentifs à la conservation de leur pouvoir dans une Italie libérée peut-être ultérieurement par les anglo-saxons, ont essayé de donner des gages de bonne volonté aux anglo-américains. Et donc, ils ont proposé, et les Allemands n'y ont vu que du feu au début, de placer en résidence forcée 4400 juifs étrangers en situation irrégulière, qui étaient tous dans la région niçoise, et de les assigner donc dans des stations alpestres, la plus connue étant Saint-Martin-Vésubie, bien entendu, puisqu'elle va en accueillir en gros un millier. Et puis, il y en aura quelques centaines dans les Basses-Alpes, à Castellane, Barcelonnette, Moustier-Sainte-Marie, et puis un peu plus d'un millier en Haute-Savoie. Donc, il y a 8 communes qui vont accueillir ces 4400 personnes, entre la fin février et le début septembre 1943. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une des communes que j'ai citées tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas de fil de fer barbelé autour de la commune. Vous devez vous présenter au commandement des carabiniers tous les jours. Dans certains cas, vous pouvez travailler, vous pouvez recevoir des parents ou des amis. La seule chose que vous ne puissiez pas faire, c'est sortir du territoire communal. Voilà. Or, pour ces gens-là qui étaient persécutés depuis des années, se retrouver dans des stations souvent agréables, en plus c'était souvent des stations relativement chic dans les années 30, et ils sont pris en charge par le comité d'aide aux réfugiés de Nice, le comité du bouchage, grâce au fonds du Joint Committee américain.
Vous aviez quel âge en 1943, François Mellone ?
43, 18, oui. Il y avait mon père avait un commerce de chaussures et il était cordonnier en même temps, il faisait de la chaussure de montagne.
Et vous vous souvenez de l'arrivée des premiers réfugiés assignés à résidence ?
Ah oui, oui, je m'en rappelle encore. Ils sont arrivés le matin, il est arrivé l'après-midi par le car, tout ça, ils sont arrivés comme ça, hein. Ils ne sont pas arrivés en fanfare, ici. Et donc, à la maison, j'avais un frère, et on était très réservés là-dessus. Et on nous disait, attention, faites à ce que vous dites. On était d'une famille où ça ne faisait pas de bruit, hein.
Vers le soir, la place s'animait. Les gens arrivaient de toutes les rues de Saint-Martin. Les gens fortunés des villas et les pauvres qui vivaient dans des chambres d'hôtel. Les fermiers revenus de guerre, les villageoises en tablier, les jeunes filles qui se promenaient trois par trois sous le regard des carabiniers et des soldats italiens, les diamantaires, les tailleurs, les fourreurs venus du nord de l'Europe. Esther restait assise sur le petit mur qui longeait la place. Elle regardait ces hommes et ces femmes, parlant toutes ces langues, venant de toutes les régions du monde sur cette place. Elle regardait les vieux juifs vêtus de leurs longs manteaux noirs, les femmes du pays avec leurs vêtements usés par les travaux des champs, et ces jeunes filles qui tournaient autour de la fontaine dans leurs robes claires. Quand la lumière avait disparu, la place se vidait lentement. Chacun retournait chez soi, les voix s'éteignaient les unes après les autres. Donc vous arrivez quand, au mois de mars, avril ?
Mars
1943. Ouais. Il fait encore un peu froid à Saint-Martin-Vésubie.
Je crois qu'on n'a pas ressenti du tout, ni les saisons, ni les choses. On était bien. C'est tout. C'est un petit village avec une grande place. Et tout le monde se réunissait là, près de la rivière qui passait sous le pont. C'était assez extraordinaire. Beaucoup de jeunes. Et déjà où nous habitions, nous, il y avait plusieurs familles, avec des jeunes aussi qui habitaient. Chaque étage, il y avait des familles avec enfants. Et on se retrouvait dans les mêmes âges. Et on a fait des groupes. Parce qu'au-dessus de là où on habitait, il y avait une famille avec un garçon et une fille. Et le garçon qui s'appelait Moïse Constat, qui est en Israël maintenant. Ce garçon, il me dit, tu sais, on va former un groupe de scouts. Et je dis, scouts, mais moi, j'ai jamais fait ça. Et il dit, moi, je sais. Alors, il a organisé les groupes garçons et il m'a mis, moi, cheftaine pour les filles. Et on partait en montagne, on faisait des groupes, on partait en montagne, on les emmenait, on marchait, on chantait. C'était gai.
Pour ces habitants de Saint-Martin-Vésubie, qui étaient en gros un millier en 1943, ils voient arriver, en l'espace de 3 mois, autant d'étrangers, comme on dit chez nous, hein, et qui en plus ne parlent pas forcément la langue de Molière. Donc ça met une animation considérable dans le village, mais ça fait naître aussi des conséquences perverses, puisque avec la loi de l'offre et de la demande, bien entendu, il y a des prix alimentaires qui vont s'envoler. Parce qu'il n'y a pas que des gens en difficulté financière qui ont été placés à Saint-Martin-Vésubie. Il y a aussi des gens aisés. et qui donc peuvent, sans utiliser les cartes d'alimentation, peuvent acheter directement chez le producteur des œufs, du lait, du beurre, de la viande d'agneau, ou tous les rapports préfectoraux et de gendarmerie sont d'accord pour indiquer que on assiste à une flambée des prix et qui provoque aussi à l'intérieur du village des tensions.
C'est ça. Il faisait partie du village, il n'y avait pas de... Ils avaient leur synagogue, ils avaient ce qu'il fallait, ils avaient l'école pour les gosses, ils avaient...
Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont été bien accueillis par les Saint-Martinois?
Oui. C'est un oui, où il faut quand même dire ce que c'était. Peut-être qu'ils avaient des torts. Ils étaient tellement embêtants à cause du ravitaillement. Ils ne touchaient pas grand-chose. Ils étaient comme les copains, hein, les tickets. Et avec les tickets, on n'allait pas loin.
Vous dites qu'ils étaient embêtants. Pourquoi?
Quand ils venaient au magasin, ils étaient là. Faites-moi un ressemblage, faites-moi une paire de chaussures. Et mon père était là, qu'est-ce qu'il disait? J'ai rien pour travailler. Et oui. Ils ont été critiqués, les Juifs. Ah oui, oui, oui. Il y avait une partie du village qui les aimait pas. Qui les aimait pas. Ou alors, quand ils allaient dans les maisons, ils étaient tenaces. Hein. Vendez-moi ci, vendez-moi là. Alors que quand vous aviez enlevé les patates et un peu de lait, et encore, il faut dire ce qui est, hein. Je vous cache rien.
Il y a débat sur la façon dont la population de Saint-Martin-Vésubie accueille et apprécie la présence d'un millier de Juifs étrangers en son sein.
Il y a un débat, mais en même temps, disons qu'aujourd'hui, cette histoire se crée à partir de
Éric Gilly,
d'un certain nombre de témoignages,
historien local,
mais aussi de sources d'archives, heureusement. Alors, plusieurs sources, hein, disponibles, bien sûr. Les sources municipales, par exemple, de l'époque, ne citent aucun problème officiel dans les délibérations municipales de la municipalité, donc communale. Eh bien, il n'y a pas de mention de tension particulière. Il y a bien une hausse des prix, c'est évident, dans une période tendue comme celle-là. Mais encore une fois, on a l'habitude, alors c'est paradoxal peut-être, à Saint-Martin, de voir les prix de l'été augmenter. De mémoire aussi, c'est vrai que je me souviens d'une mention du curé qui pouvait se plaindre de voir le prix des œufs avoir été multiplié par 2 ou 3 à certains moments. Il n'empêche que hein, ce sont des éléments qui sont ponctuels dans les archives aujourd'hui consultables. Voilà.
Comment réagit le village alors?
Alors c'est très varié. Ça dépend des générations, ça dépend des milieux, ça dépend des engagements précédents sur le plan politique ou autre. En revanche, il y a quelque chose que on a tous constaté, c'est que les jeunes, eux, ont été séduits par cette arrivée massive qui, pour d'autres, était considérée comme une invasion, puisqu'il y avait pratiquement un pour un. Bon, parce que les distractions étaient rares. Or, parmi ces jeunes réfugiés, il y a des gens qui sont des artistes, qui savent jouer du piano, il y a des sportifs de haut niveau, etc. etc. Ce qui fait que...
Il y a aussi des gens qui ont voyagé, qui voilà, ont vu le monde.
Voilà. Et ça leur ouvre l'esprit, etc. Et alors, il y a des discussions sans fin sur leur parcours, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils envisageaient de faire plus tard s'ils survivaient à la guerre, etc. Puis, bien sûr, il y a des balles clandestins dans les granges avec le gramophone, etc. Et les gendarmes qui leur courent derrière pour faire respecter les lois de Vichy.
Moi, je n'avais pas été au bal, hein. J'avais pas le droit. J'avais pas le droit, mais j'avais regardé en douce. Parce que j'étais quand même assez dégourdie, hein, pour mon âge. Mais c'était sympathique. On était toujours quand même un petit groupe très, très gai, on se réunissait. Il y avait une dame qui donnait des cours de piano. On adorait l'entendre jouer. Et on était tout un petit groupe, il y a d'ailleurs des photos où on est un petit groupe chez elle, la maman de Liesel. Et je me suis rendu compte, a posteriori, que Liesel était amoureuse de Jacques Sanson. Et ça se voyait. Et lui, il ne s'était pas rendu compte.
Vous pouvez me montrer les photos de ce groupe d'amis, justement?
Je crois qu'il doit être là-dedans, certainement. Ben, voilà, ben, déjà, voilà. Liesel est là, moi je suis là. Jacques Sanson, voilà. Et elle était toujours, partout où elle allait, elle se mettait toujours à côté de lui. Et ça, c'était Edith, Norbert. Bon, là, c'est d'autres amis. Voilà. Ça, c'est...
Là, vous êtes... tout le monde est torse nu, en maillot de bain. Pour
là, il faisait chaud, c'était l'été, là.
Vous baignez au torrent?
Ben, écoutez, pas au torrent, parce que c'était glacial. Mais on avait découvert une petite piscine. C'était pas une piscine, en fait. C'était un bassin à truite.
C'est celui-là, là?
C'est ça. Et on avait découvert ça.
Et là, on vous voit dans l'eau, justement,
voilà,
du bassin
voilà,
à truite.
Dans l'eau. Et ça, c'est Jacques Paperman qui a été résistant. Il a fait beaucoup de choses. Ça m'a été raconté après. Là-bas, on se rendait compte de rien. Il paraît que la résistance était faite là-bas sur place. Et ça, je l'ai su après.
À partir de quel moment les assignés à résidence de Saint-Martin-Vésubie et de l'ensemble des Alpes, enfin de la zone d'occupation italienne, sentent-ils le vent tourner et que font-ils à ce moment-là?
Alors, l'élément déterminant, c'est la destitution de Mussolini par le Grand Conseil du fascisme le 25 juillet 1943. Bon, à partir de ce moment-là, les résidents forcés sentent, en observant les réactions des militaires, hein, puisqu'il y a à peu près 150 gardes à la frontière qui sont sur le territoire de Saint-Martin-Vésubie, il y a une trentaine de carabiniers aussi, etc., qu'ils ont changé un peu au niveau de leur comportement, qu'ils parlent ouvertement avec mépris du Duce, par exemple, hein, bon, et qu'ils se lamentent de ne pas pouvoir déjà rentrer chez eux, puisque pour eux, la guerre est terminée. Et les résidents forcés, ils sentent que désormais, les Italiens ne vont pas rester longtemps. Bon. En plus, ils reçoivent des informations plus sûres de la part de la communauté niçoise. Et l'un des dirigeants du mouvement de la jeunesse sioniste à Nice, un certain Yankiel Weintraub, dit Jacques Wister comme pseudonyme de résistance, a des contacts parmi les jeunes réfugiés de Saint-Martin-Vésubie, notamment deux Belges, David et Jacques Blum, et un Autrichien, Ernest Appenzeller, qui ont entre 17 et 20 ans à l'époque. Et donc lui a déjà transmis à ses correspondants à Saint-Martin des consignes et des cartes géographiques, en leur disant, tâchez d'essayer de faire des reconnaissances de terrain si c'est possible, car les Italiens ne vont pas rester très longtemps, et il faut donc ne pas attendre le dernier moment pour préparer un exode vers le Piémont. Donc, les trois dont j'ai parlé, hein, les deux Blum et Appenzeller, avec ses sauf-conduits, vont faire l'ascension du col de Fenestre et du col de Cerise. Ils prennent des notes, etc., sur la pénibilité, les endroits où on peut s'arrêter, les endroits où on peut se reposer éventuellement pour une nuit, les endroits où on peut éventuellement s'abreuver avec une eau suffisamment potable, etc. Bon. Tout ceci va être utile parce que ces trois jeunes vont commencer à convaincre un certain nombre d'adultes de préparer leur départ.
J'ai pris de l'eau.
On y va?
Allons-y. Alors, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est monter par là à gauche pour rejoindre la Madone, parce que je vais vous montrer où était la frontière, disons.
La frontière d'avant 1947.
Tout près du village.
Tout droit?
Alors, tout droit.
Daniel Baudolaxine.
historienne amateur.
Les gens sont partis à pied par ici, réunis sur la place. Ils sont partis hors de... Et voilà la guérite de la... Il y avait des douaniers ici. Et voilà le départ du chemin, non goudronné à l'époque bien sûr, par où ils sont partis et qui longe le torrent.
Italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la imparilotta.
8 septembre 1943, le général Badoglio annonce la capitulation de l'Italie sur l'agence radiophonique italienne. Le gouvernement italien, reconnaissant l'impossibilité de continuer une lutte inégale, vu la puissance supérieure de l'adversaire, et afin d'éviter d'ultérieurs et encore plus graves malheurs à la nation, a demandé un armistice au général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées anglo-américaines. Cette demande a été acceptée. Par conséquent, tout acte d'hostilité contre les forces anglo-américaines devra cesser de la part des forces italiennes en tout lieu. Néanmoins, elles réagiront aux éventuelles attaques de toute autre provenance.
À droite, maintenant. Le rendez-vous était à 4 heures du matin. Les boulangers n'avaient pas cuit le pain. Les gens sont partis en emportant n'importe quoi à manger. Ils n'étaient pas équipés. La plupart ont ramassé les draps, les couvertures de leur lit pour se couvrir.
Vous vous souvenez de ce jour-là, du 8 septembre 1943 ?
Non, je me souviens seulement du capitaine de la gendarmerie italienne qui a réuni tout le monde sur la place pour prévenir tout le monde qu'eux étaient appelés à repartir en Italie parce que les Allemands avaient occupé la France dans la partie où les Italiens étaient là.
Et vous étiez sur la place à ce moment-là ?
Ah bah oui, 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 mais tout le monde. Tout le monde. Ça a été vraiment l'effroi, là. Hein. Il y a eu vraiment un froid terrible. Terrible. Parce que les Italiens, pour nous, c'était vraiment les sauveurs. On espérait les avoir jusqu'au bout.
De tous les côtés, les gens arrivaient sur la place. Les juifs pauvres sortaient des ruelles, des sous-sols où ils avaient vécu pendant toutes ces années. Ils arrivaient avec leurs bagages, leurs vieilles valises en carton fort, leurs baluchons de linge, leurs provisions dans des sacs de toile. Les plus vieux, comme le Reb Eizik Salanter, Yakov et les Polonais, avaient revêtu leurs lourds caftans d'hiver, leurs bonnets d'astrakhan. Les femmes avaient quelquefois deux manteaux l'un sur l'autre, et toutes portaient les châles noirs. Mais beaucoup n'avaient même pas pris de bagages parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer. Les soldats ne regardaient personne. Ils attendaient, debout devant l'hôtel, pendant que les camions faisaient ronfler leurs moteurs de l'autre côté de la place. Les gens du village, les fermiers, étaient là aussi, mais à l'écart. Ils se tenaient sous les arcades de la mairie et ils regardaient les juifs qui se massaient autour de la fontaine.
Arrivé à ce niveau, déjà des gens ont abandonné. Sans retourner vers le village, incapables de continuer, en espérant trouver protection auprès des habitants qu'ils connaissaient. Bon, déjà pas de vêtements chauds pour la plupart, parce qu'ils n'avaient pas prévu, évidemment. Et comme chaussures, ils avaient des chaussures en pneus, à semelles de pneus, ou à semelles de bois, ou des espadrilles que faisaient des artisans. Là, nous sommes, on voit le torrent de la Madone. Tous ces arbres avaient été coupés pendant l'occupation allemande, et donc ça a fait que la montagne n'était plus protégée par ces arbres, et il y avait des avalanches terribles tout le long.
La plupart des résidents n'ont pas à l'esprit que le lendemain, ce sera un jour décisif avec le départ difficile vers les crêtes. Des crêtes dont on leur parle souvent dans le village, mais qu'ils ne voient pas. Parce que quand on est à Saint-Martin-Vésubie, enfoncé à 930 mètres d'altitude, dominé par le Piagu d'un côté, l'Archias de l'autre, tout ce que l'on voit plus ou moins, ce sont des cimes, surtout vers l'ouest, mais pas vers l'est, parce qu'on est trop bas. Mais ce sont les Italiens qui, quand ils partent le lendemain matin entre 9h et 10h, les incitent à les suivre. Beaucoup d'entre eux, à part ces jeunes dont je parlais tout à l'heure, avec ce petit groupe qui était relativement motivé et préparé matériellement, la plupart des autres étaient convaincus qu'ils pourraient redescendre sur Nice. Et les militaires italiens leur disent « Non, surtout pas, suivez-nous, nous on a des mulets, etc. On connaît bien la montagne et on va arriver dans ces villages de Valieri après avoir franchi le col de Cerise ou d'Entrac ou après avoir franchi le col de Fenestre. »
Je vais vous laisser sortir.
C'est bon.
On y va ?
Ce chemin sur lequel nous marchons est une promenade actuellement. Et ce qu'ont connu les réfugiés, c'est ce que vous avez là à droite. C'est-à-dire, on ne voyait pas le chemin. Et les premiers fuyards ont suivi donc ou des Saint-Martinois ou plus tard des soldats italiens qui connaissaient le chemin direct. Bon, mauvais chemin, mais chemin direct. Et les autres se sont trompés. Et des gens se sont perdus dans la montagne.
Maintenant, les gens marchaient sur la route au soleil de midi. Ils étaient si nombreux qu'Esther ne voyait pas le commencement ni la fin de la troupe. Il n'y avait plus de grondement de moteur dans la vallée, plus un bruit, rien que le raclement des pieds sur la route de pierre, et cela faisait une rumeur étrange, un bruit de fleuve sur les galets. Pendant qu'elle marchait avec eux, Esther cherchait leur nom dans sa mémoire. Cécile Greenberg, Meyerl, Gelipta, Sarah et Michel Lubliner.
Je me souviens que les parents ont commencé à faire des paquets,
Jackman,
pas des valises, Lazar, parce que les valises, on savait qu'il fallait repasser par la montagne
Gachette,
qui était très haute.
Simon Choulevitch,
on est allé quand même jusqu'à 3000 mètres à pied, André, dans la caillasse.
Marc,
et ça, je me souviens très bien.
Lucie, Eliane Salanter. Mais elle ne retrouvait leur nom qu'avec peine, parce que ce n'étaient plus déjà les garçons et les filles qu'elle connaissait, ceux qu'elle voyait à l'école, qui couraient et criaient dans les rues du village, ceux qui se baignaient nus dans les torrents et qui jouaient à la guerre dans les fourrés. Maintenant, vêtus d'habits trop grands, trop lourds, ils ne couraient plus aussi vite. Ils ne se parlaient plus, déjà tristes, fatigués, ne regardant rien ni personne.
Les gens commençaient à partir et tranquillement au début, après ça a été la cohue. Et tous les âges, c'est ça qui a été terrible. C'est qu'on voyait des femmes avec des enfants, on voyait des gens très âgés qui n'arrivaient plus à avancer. Parce que les gens venaient avec des valises, ils ne se rendaient pas compte, ils traînaient des valises. Au bout d'un moment, ils vidaient les valises. Après, c'était les valises qu'ils jetaient. Et il y en a eu qui sont restés assis par terre. Bon, nous, on avançait comme on pouvait, et on avançait lentement, hein, parce que c'était vraiment de la caillasse, des gros cailloux. Et qui roulait sous nos pieds, donc c'était pas facile pour monter. Moi, je sais que mon père a eu du mal. En arrivant, on est allé jusqu'au col de la Fenestre à 3000 mètres.
2500.
Je me souviens, en arrivant, il y avait une espèce de petite cabane. Et je sais que mon père s'est trouvé mal en arrivant là-haut. Et là, j'ai eu très peur. Et finalement, c'était l'oxygène qui a été très, très fort pour lui, certainement. Ou peut-être, la peur, la crainte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça n'a pas duré longtemps, heureusement.
Vous êtes donc parti de Saint-Martin-Vésubie par ce petit chemin, aujourd'hui qui est goudronné, jusqu'à la Madone de Fenestre.
Il est goudronné maintenant ?
Oui.
On dit ça.
Il est goudronné jusqu'à la Madone de Fenestre. Oui, vous souvenez de ça ?
Jusque là, c'est ça. On a fait tout ça à pied dans la caillasse.
Vous voyez tous ces petits chemins qui zigzaguent ? Imaginez des gens là-dedans.
Ça va, Daniel ? On voit le col, ça y est.
Voilà, chemin du Pas des Ladres, que l'on voit parfaitement maintenant, d'en haut. L'air est merveilleux. Un peu de vent, nous avons de la chance.
8 settembre, en arrivant à San Dalmazzo, à Borgo San Dalmazzo, j'ai vu qu'il y avait l'armistice.
Raimondo Luraghi, alors sous-lieutenant commandant le poste de la Madone de Fenestre.
Alors j'ai marché tout de suite pour Valdieri, Et le matin de fenêtre, j'ai rencontré les Juifs qui viennent de Saint-Martin. J'ai fait l'impossible pour les aider. Nous avons leur donné notre lit, à manger, quelque chose. Et j'ai aussi mis une mitrailleuse sur la route pour leur faire comprendre que j'aurais combattu si les Allemands viennent. Mais vous savez, j'étais très préoccupé parce que j'avais 7 soldats et j'avais bien des Juifs à protéger.
Et c'est le commandant italien qui est venu vous avertir qu'il fallait partir le lendemain?
Non, il y a eu des rumeurs. Vous...
Des rumeurs tout de suite.
Alors on est allé, les gens sont accourus sur la place. Et alors, moi je m'appelle David Blum, nous a conduit.
Léa Réveni, témoin.
Jusqu'avant la frontière d'Italie. Je ne sais pas si c'était après le col de fenêtre. Vous savez, la présence de David Blum a été une certaine force, vous comprenez? Et lui nous a conduit, parce que je ne sais pas si on aurait trouvé le chemin tout seul, vous savez, c'est quand j'y pense. Plus tard, on a su qu'ils avaient fait le chemin, ils ont préparé, ils ont pris en considération que peut-être un jour il faudra qu'on va s'échapper.
C'est le lac de Fenestre. Et vous voyez qu'il y a des abris de bergers. Mmh. Donc ils ont pu avoir du lait en septembre, les vaches montaient jusqu'ici. Mmh. Et là, les gens ont pu dormir, s'abriter avant de reprendre la terrible descente jusqu'à Entrac, dans les éboulis, dans toutes les difficultés possibles.
Je vais vous lire un extrait du témoignage du survivant Marcel Jungermann, qui lui est passé par... le col de Cerise, qui était l'itinéraire le plus difficile, hein, compte tenu de la dénivelée, de l'aspect rocailleux. Grimper sur des éboulis qui déboulent sous les pieds, grimper encore, souffler, s'arrêter. Quand un appel venant d'en dessous vous oblige à redescendre ce que l'on a monté avec tant de peine. Tendre la main à ceux qui n'en peuvent plus. Avec un camarade, nous formons de nos bras une chaise à porteur et transportons ainsi une vieille femme qui n'en finit pas de geindre.
Vous pouvez nous lire cette plaque-là ?
Oui. Par ce col, en septembre 1943, des centaines de Juifs de toute l'Europe cherchèrent souvent, en vain, de se sauver de la persécution antisémite. Toi qui passes libre, souviens-toi que cela est arrivé chaque fois que tu tolères que tout autre ne jouisse pas de tes mêmes droits.
Donc c'est ici que les réfugiés ont pu prendre un peu de repos avant de redescendre.
Ceux arrivés ici ont pris un peu de repos ici, mais ils avaient tellement peur qu'ils ne sont presque pas restés, je veux dire le minimum, parce que là-bas, c'était la liberté pour eux. Ils imaginaient la liberté qui serait protégée, et puis ils ont trouvé qu'ils étaient pris en tenaille. Certains n'ont pas voulu entrer dans Entrac, se sont méfiés. Ceux qui, surtout les Polonais qui avaient l'habitude de courir depuis tant d'années, ils se méfiaient de tout. Et c'est le cas de plusieurs familles qui se sont arrêtées avant Entrac. C'est dangereux d'être trop nombreux et sont partis dans les montagnes de la vallée d'Isère. Et ceux-là ont pu trouver des abris, ont été extraordinairement aidés par les paysans. Et d'autres, il y a eu la rafle donc le 18 septembre. On leur a demandé de se réunir sur les places. Certains qui étaient passés étaient à Sant'Anna de Valdieri, ils sont arrivés à Valdieri.
Et donc, ils ont ensuite été réunis à Borgo San Dalmazzo.
À Borgo San Dalmazzo. Et tout le monde devait se réunir sur la place. Il y en a qui n'ont pas accepté, puis il y en a qui étaient trop épuisés.
Il y a eu des gens qui ont été découragés ou très affaiblis. Et parmi eux, il y en a donc quelques-uns qui ont renoncé et qui ont fait marche arrière. Parce que... ils apprennent donc le 8 septembre au soir que le gouvernement italien de Badoglio a capitulé entre les mains d'Eisenhower, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que les Américains, à l'époque, sont en Sicile et que le 9, ils arrivent en Calabre. Mais que de la Calabre au Piémont, il y a plus de 1200 kilomètres. Hein? Bon. Et qu'ils vont mettre pratiquement 18 mois pour faire ces 1200 kilomètres. Donc quand ils arrivent dans la plaine piémontaise, ils interrogent les gens, on leur dit « Non, mais non, les Américains, on n'a pas vu. » Non, et puis ils sont pas encore à Naples, alors vous pensez, avant qu'ils arrivent. Bon. Et par contre, ils apprennent que des troupes allemandes ont déjà franchi le Brenner. Et que depuis le 31, elles commencent à s'approcher de Turin et ensuite de Cuneo, où ils arriveront le 14 septembre. Donc il y a des gens là qui se disent « Oula, ça sent le roussi, on préfère retourner en France. » Bon, heureusement, ça n'a porté que sur une dizaine d'individus, parce que c'était un peu aller se jeter dans la gueule du loup.
Tranquillement, on est arrivé en bas, un petit village mignon. Bon, on ne savait pas très bien où on allait. Et puis là, mon père nous a dit, et ma mère et à nous, mes sœurs, il nous a dit, bon, vous m'attendez là, je vais voir si je peux trouver quelque chose pour passer la nuit quelque part. Il est revenu au bout d'un moment, il a dit, ben, j'ai trouvé une petite maison là, à l'entrée du village. Et il dit, c'est très bien, et on va passer la nuit là. On n'avait pas de couverture, on n'avait rien. Et on rentre dans cette maison, et il nous dit, ben voilà, maintenant il nous a expliqué. Là, vous voyez, il y a une porte là, il y a une porte derrière. Il avait fait le tour de la maison. Et il s'était rendu compte qu'à l'arrière de la maison, il y avait un champ de maïs. C'est ce qui nous a sauvés. Parce que dans la nuit même, il y a eu beaucoup de bruit. On entendait des bruits de camions, des cris. Et ça, je me souviens très bien, ça nous a réveillés. Des cris, mais terribles. Et les camions, ça faisait un bruit terrible. Et mon père nous a tous réveillés. Il nous a dit, vite, 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 derrière, dans les champs de maïs. Vous sortez vite. Vous emmenez tout dans les champs de maïs et vous partez dans les champs de maïs. Et on est tous partis, on s'est cachés. On a attendu jusqu'à ce que ça se soit calmé. Et quand ça s'est calmé, on est ressorti et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Les Allemands avaient emmené tout le monde.
Ça va, Daniel ? Quel âge avez-vous ?
J'ai seulement 76 ans. On a de 80 ans qui ont fait l'ascension, et plus de 80 ans.
Pour ceux qui ont franchi les cols, qui arrivent au Piémont, ils sont donc en gros un petit millier, disons 980. D'abord, ils se concentrent dans les deux villages principaux où ils sont arrivés, Valieri et Intracoué de l'autre côté. Mais ils sont trop nombreux là aussi par rapport, ils sentent que c'est pas très prudent de rester là. Les plus conscients parmi eux commencent à se disséminer dans plusieurs villages. Donc, les étrangers doivent se rendre à la caserne des chasseurs alpins de Borgo San Dalmazzo avant le 18 au soir. Sinon, ils seront fusillés et surtout seront fusillés également les gens chez qui ils seront découverts. Et ça, ça va être déterminant pour plusieurs centaines d'entre eux. C'est pas tellement pour leur destin personnel qu'ils vont se rendre, mais pour ne pas porter préjudice à ces piémontais généreux qui les avaient accueillis. Donc il y en a à peu près 340 qui vont se rendre à la caserne de Borgo San Dalmazzo. Et le 21 novembre, il y en a 328 qui vont être mis dans 5 wagons de marchandises. Bon, il n'y aura que 12 survivants. Et parmi les 600 et quelques qui ne se sont pas rendus, il y a eu très peu de gens qui ont été arrêtés, car ils ont bénéficié d'une protection tout à fait remarquable de la part de la population paysanne de la province de Cuneo.
Mon père nous a dit, allez, on retourne, on prend n'importe quel chemin, on ne se souvenait plus quel chemin on avait pris pour descendre. Bon, on a trouvé une route de montagne, la première qu'on a prise, on l'a reprise, on est remonté. Et en route, on a rencontré un contrebandier qui était de Saint-Martin. Mon père le connaissait puisqu'il avait été chez lui acheter des pommes de terre ou je ne sais pas quoi.
Comment il s'appelait ce contrebandier ?
Charlot. Je crois que c'est Angelotti, mais son nom de famille, bon, moi, c'était Charlot. Bourru, bon, vraiment le bon paysan, la casquette, je me souviens très bien de sa tête.
J'ai eu le témoignage de Charlot en 66.
Il ressemblait à quoi, Charlot ?
Il avait un nez énorme, c'était un balèze, on dit. Il était grand, solide, costaud. C'était le cadet de sa famille et son destin était de ne jamais se marier et de garder le troupeau.
Il était contrebandier ? Qu'est-ce qu'il passait ?
Pot de veau, papier à cigarette.
De France vers l'Italie ?
De France vers l'Italie. Il passait tout ça sur le dos, hiver comme été. C'est-à-dire où nous sommes, quand il y avait 3-4 mètres de neige, les contrebandiers passaient quand même. Il y avait toujours eu de la contrebande. Mais là, pendant la guerre, ils passaient tout ce qui manquait à Saint-Martin. Ils avaient des raquettes rudimentaires. Ils ont passé aussi toujours du courrier réunis par tous les postiers de la Vésubie, dont certains, le chef Pradourat à Lantosque et Clarion à Saint-Jean-la-Rivière, faisaient partie du réseau franc-tireur Vésubie.
Plus qu'une dizaine de mètres, Daniel.
C'est génial, c'est génial. Charlot, alors lui nous a vraiment sauvés. Il nous a montré le chemin qu'il fallait prendre pour remonter, et il nous a amenés jusqu'à une grotte, assez haute, bien sur la route de Saint-Martin. C'était le chemin des contrebandiers, je suis après. Il nous a dit, écoutez, c'est pas compliqué, vous allez rester là. Moi, je vais vous apporter de quoi manger, de quoi vous couvrir, mais ne bougez pas, restez tranquille. Et on a attendu jusqu'à ce qu'ils reviennent nous chercher. Je peux pas compter le temps, je sais pas. Et il nous a amenés jusqu'à une grange. Que là, mon père a reconnu. Il dit, mais ça, c'est la ferme de M. Matteux.
Le laitier.
Le laitier. Et on a su après que M. Matteux faisait partie de la résistance. Et la chose extraordinaire, c'est que M. Matteux, il a donné ses papiers à lui et ceux de sa femme à mes parents. Il a pris des photos. Il a changé tout sur leur carte à eux. Et pour nous, il a fait faire de fausses cartes d'identité pour mes sœurs et moi. Et on est reparti de là, grâce à ces papiers. Et nous sommes descendus, mes sœurs et moi d'abord, les premières, sur Nice. Là, il y a eu un contrôle de papiers. On a eu peur. Bon, on a fait les innocentes et on a eu la chance de passer. Et puis, on est parti rejoindre la famille qui était dans la Loire. Et puis, un jour, on a vu arriver nos parents. Et ça a été fabuleux. Et quand mon père est arrivé là, il dit, moi, je reste pas là, il y a trop de juifs ici. Il est allé se promener comme il faisait toujours, hein. Il allait repérer. Et puis il a rencontré un monsieur à quelques kilomètres de Saint-André-d'Apchon, un endroit qui s'appelle Renaison. Il habitait un château, le château de Renaison. Voilà, ce monsieur lui a dit, écoutez, moi j'ai une petite maison dans les vignes, et bien vous allez vous installer là-bas avec vos enfants. Et vous ne craignez rien, personne ne viendra vous embêter. Et le restant de la guerre, on l'a passé là-bas.
Comment s'appelait ce monsieur ?
Monsieur Coste. Ça, les noms, ça s'est resté. Ouais. Mais je n'ai pas retrouvé non plus. J'ai cherché, mais Monsieur Coste à Renaison. Ça a dû être vendu, ça a dû être, je ne sais pas. Mais je pense que c'était un résistant. Et on a attendu la fin de la guerre là-bas.
Daniel, donc après cet exode des 9, 10 et 11 septembre 1943 des Juifs dits de Saint-Martin-Vésubie, certains sont revenus, d'autres ont été raflés. Il y a des Saint-Martinois qui ont caché des Juifs. Combien de justes parmi les nations y a-t-il à Saint-Martin-Vésubie aujourd'hui ?
Je vais les citer. Donc, Fanny Vassallo, propriétaire d'Hôtel Stéphanie, Paul et Henriette Saïssi, qui étaient ses amis, qui là ont sauvé à Monaco Paulette, toujours. Il y a Joseph et Victorine Rebaud, qui ont été nommés juste devant les nations en 2005, et leur fille Marguerite Rebaud-Franco. Ensuite, les gendarmes de Saint-Martin-Vésubie, tous ont été d'accord pour protéger les deux enfants, Dreyman. Et j'ai pu faire nommer Adrienne et Landry-Jules Mangan, et Yvonne et Joseph Fougère. Mais en fait, il y a eu bien d'autres juste dans la vallée. Quand on a caché un enfant, on ne connaît pas son nom. Par exemple, les Ferriers ont caché une petite fille, mais voilà, on ne savait même pas son nom.
Sachant que parmi les critères pour être nommé juste, il faut le témoignage du sauveur et le témoignage du sauvé.
La vérité, on ne la saura jamais. C'est vrai, dans ces moments-là, on ne peut pas savoir. On ne sait pas comment les gens réagissent de toute façon.
Avec Jean-Louis Panicacci, Daniel Baudolaxine, Éric Gilly, François Mellon et Jenny Lancel-Stopek. Merci à l'association Amont et Daniel Baudolaxine. Témoignage de Raymond Dolouraghi et Léa Réveni, archives personnelles de Daniel Baudolaxine. Lecture de Étoile errante de Jean-Marie Gustave Leclésio. Prise de son, Jean-Marie Giannettini. Mixage, Philippe Bredin. C'était Un si bel été, l'exode des Juifs de Saint-Martin-Vésubie en septembre 1943, un documentaire de Raphaël Kraft et Véronique Samouilov.
Bien entendu, comme toutes les émissions de France Culture et de la Fabrique de l'Histoire, vous pouvez écouter ou réécouter ce documentaire en allant sur notre site www.franceculture.fr. Vous pouvez également laisser vos commentaires en discutant avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre régulièrement sur le réseau Twitter. Et puis sachez que Raphaël Kraft a produit également un documentaire qu'on pourra entendre sur France Culture dans la nouvelle série documentaire à 17h sur France Culture sur le thème de passer les frontières. Ça s'appelle Passeur, comment j'ai fait passer la frontière à des réfugiés. Ça parle non pas d'histoire mais d'aujourd'hui. Et c'est un documentaire donc lundi prochain que vous pourrez écouter dans la série documentaire. Il est réalisé par Jean-Philippe Navarre. Et si vous vous intéressez à l'histoire des Juifs de la région niçoise, sachez que la journaliste Brigitte Benkemoun publie demain chez Stock l'incroyable histoire de son arrière-grand-oncle juif d'Algérie vivant à Nice pendant la guerre et victime de ces rafts dont on a parlé justement dans ce documentaire, mort à Auschwitz. Ça s'appelle Albert le Magnifique et c'est vraiment une histoire incroyable. Ça sort demain en librairie.